bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir. Bonsoir. Il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, on va parler de...
Eh bien, il y aura plein de brèves. Enfin, 3.
Ensuite, on aura notre rubrique du Camion Info qui est en ce moment à Kalamata. Parce qu'on n'a pas le droit de faire des blagues avec les olives.
Ensuite, on aura des néo-nazis au pays des anciens... Pardon. On aura des néo-nazis au pays des anciens nazis.
Voilà, on vaut mieux parler d'olive, hein, finalement. Et ensuite, on aura des brèves des frontières dans la rubrique « Il faut que ça se sache » et on finira
par des infos sur le Kurdistan. Des manifs en Chine qui ne semblent pas s'étouffer. On vous avait laissé il y a 15 jours avec des émeutes dans l'usine d'iPhone, dans l'usine ville d'iPhone, et depuis les manifestations se sont répandues à l'ensemble du pays. En face, le gouvernement est relativement bloqué, la situation est compliquée sur le plan épidémique, dans un pays où une forte majorité des plus de 60 ans, donc les plus sujets aux cas graves de Covid, ne jurent que par les médecines traditionnelles et a de fait refusé la vaccination. La fin de la politique zéro Covid risquerait d'entraîner d'importantes vagues de décès dans un pays déjà sous tension. Russie et Ukraine. Alors que les Russes s'en sont moins mal sortis qu'on aurait pu le penser dans la poche de Kherson, dont ils ont réussi à extirper une partie de leurs soldats, le front semble s'être stabilisé ces derniers jours. Les Russes continuent de faire pression sur le Donbass, où sont concentrées les troupes les plus aguerries, notamment les troupes de... Maintenant j'ai mangé leur nom. De Wagner, c'est ça. Et où pourtant ils peinent à réussir à obtenir des résultats flagrants. Les Ukrainiens, eux, contrairement à ce qu'on pensait, semblent continuer à pousser lentement du côté de Kherson et des villages ont été signalés libérés de l'autre côté du Dniepr. C'est dans les airs, par contre, que les choses changent le plus. Les Russes semblent être passés à une politique systématique de destruction des installations électriques, espérant faire peser par le froid sur le moral des populations civiles. De leur côté, les Ukrainiens semblent avoir pris la confiance et commencent à lancer des attaques aériennes loin à l'intérieur du territoire russe. Ces trois derniers jours, ce sont trois installations de l'armée de l'air russe qui ont été visées, l'une d'elles à quelques dizaines de kilomètres de Moscou. Elles sont toutes à plus de 250 kilomètres de la frontière. Les Américains semblent ne pas trop aimer la manœuvre. Et on finit avec l'Iran, où il y a trois jours de grève qui ont commencé... Donc de grève générale qu'on commençait lundi, qu'on continuait mardi et donc qui s'achevait aujourd'hui par d'importantes manifestations, notamment étudiantes. Pour l'instant, la grève semble avoir été plutôt bien suivie. Pas plus d'infos. Et donc on va vous laisser avec le Camion Info, une petite introduction, des milliers de personnes dans les rues en Grèce hier, 14 ans après le meurtre d'Alexis par la police, un drame qui augurait des mois de révolte, reportage à la manif de Kalamata.
Canine. Des rues de Lyon.
Excuse-moi, j'ai dit canine, mais bon, on va dire Radio Canu.
Aux pistes de lointaines contrées, suivez la reporter des Camions Info du mercredi dans le Camion Info.
Thank you. Inetu Alexi.
So this demonstration is organized by the anti-fascist movement of Kalamata, and it was originally arranged days before the assassination of yesterday, because today, 6th of December, is like 14 years from 6th of December of 2008 that the CAP Corconeas killed Alexandros Grigoropoulos, a 50.
Cette manif est organisée par le mouvement antifasciste de Kalamata. C'était déjà planifié avant que l'on apprenne le meurtre d'hier, parce qu'aujourd'hui, le 6 décembre, on commémore le 6 décembre 2008, date à laquelle Alexandros Grigoropoulos, un jeune homme de 15 ans, a été tué par la police à Exarcheia, à Athènes, ce qui a été l'étincelle d'un vent de révolte dans toute la Grèce pendant les mois qui ont suivi. Il y avait de nombreuses manifs, des émeutes, des occupations, des ouvertures de lieux autonomes, etc. On a des souvenirs très forts de ces moments.
We have very strong memories of that. So today we commemorate. We originally arranged this demonstration to commemorate the murdering of Alexandros Grigoropoulos, also the riots of December, and then yesterday.
Donc aujourd'hui, on commémore le meurtre d'Alexandros Grigoropoulos, mais aussi les révoltes de décembre 2008. Et voilà qu'hier, à Thessalonique, un jeune Rome de 16 ans se fait tirer dessus par la police. Il est à l'hôpital entre la vie et la mort. Donc c'est la même chose qui se joue 14 ans après. Ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'en 2008, c'était à Exarcheia avec une dimension politique, mais ce qui est arrivé hier montre un autre aspect des violences policières, le racisme. Il savait que c'était un Rome de 16 ans. D'accord, il n'avait pas payé ses 20 euros d'essence à la station-service. Et ça, c'est perçu comme un crime qu'il paye d'une balle dans la tête.
He didn't pay 20 euros for the gas in the gas station. That was his crime, and he paid with a shot in the head. So this is like all this police brutality and...
Et ces violences policières ne viennent pas de nulle part, parce que le gouvernement actuel, encore plus que les précédents, leur donne en quelque sorte le droit d'agir de la sorte. Donc on proteste contre tout cela aujourd'hui à Kalamata, cette petite ville au sud de la Grèce. On n'attendait pas beaucoup de monde, c'est une petite ville très calme, mais finalement il y a une bonne centaine de personnes, et je suis contente qu'on organise quand même quelque chose.
But yesterday in Thessaloniki and in Athens there were demonstrations quite big and
Mais hier à Thessalonique et à Athènes, il y avait de grosses manifestations et j'espère qu'ils sont aujourd'hui encore nombreux et nombreuses dans la rue.
I hope they are massive and big demonstrations.
Yesterday they shot another young guy. So unfortunately, they give us the police give us every year new facts. So
hier encore, la police tire sur un jeune homme. Malheureusement, chaque année, de nouveaux faits rendent cette commémoration pour Alexis toujours plus actuelle. Une preuve de plus que c'est important de le faire.
Need to be done.
Υγεία και παιδεία και όχι για τα ΜΑΤ και την αστυνομία. Δώσε λεφτά για υγεία και παιδεία και όχι για τα ΜΑΤ και την αστυνομία.
This motto was give money for health and infrastructure and not for the police and the cops.
In 2008, I was in Thessaloniki. I was a student. There, it was too much police. But I think at that period, the days of the murder, they were a little bit stuck and they didn't react because it was too many people in the streets.
En 2008, j'étais étudiante à Thessalonique. Il y avait énormément de policiers, mais à cette période, ils étaient un peu pris de court. Ils ne réagissaient pas vraiment parce qu'il y avait trop de monde dans la rue. Ça n'a pas duré longtemps, et peu à peu, ils ont grossi les effectifs et inventé des stratégies de réaction. J'ai commencé mes études en 2004. Je venais d'une petite ville, Kalamata, et je suis arrivée à Thessalonique où j'ai commencé à être active politiquement. Cette première année où il y avait peu de mouvement, quand nous faisions quelque chose, nous étions 200 personnes avec la police tout autour. Donc on ne pouvait rien faire. Après, il y a eu 3 ans d'occupation d'université et différents mouvements. Et là, il a commencé à y avoir beaucoup de monde dans les rues et on a commencé à voir la ville différemment. Ensuite, il y a eu 2008 et le meurtre d'Alexis. Et jusqu'à 2012 à peu près, on se sentait très fort dans la rue. Et puis, il y a eu Syriza au gouvernement. Donc, beaucoup de personnes leur ont fait confiance. La gauche au gouvernement remplaçait la rue. Mais rien ne change. Et ensuite, retour en arrière.
I think crises have started, so a lot of people there were very absent and they have a lot of anger inside them. Alexis was a young boy and let's say it was for the...
Je pense que ce qu'il s'est passé en décembre 2008 est aussi lié à la crise financière. Tout le monde était déjà en colère. Et Alexis était un jeune homme, et pour la plupart des gens de classe moyenne, c'était un choc, il aurait pu être l'un de leurs amis. Tous les lycéens étaient dans la rue, et leurs parents, c'est devenu un soulèvement général. Et encore une fois, il est juste sorti dans un parc, il n'y a eu aucun conflit, il n'était ni dans une manif, ni en train de fuir la police, il n'y avait vraiment rien qu'on puisse trouver comme excuse pour ce meurtre.
Trying to do, let's say that is some of the excuse of in the media. Media, they didn't have an excuse. And after 2008, the one thing it was that, okay, that those days it was a lot of people active in the streets, but also, let's say after the vacation, the first day it was the active part, and then slowly you show that a lot of people that they weren't before in the movements, they start go to assemblies, they start creating assemblies of neighborhoods. So,
après le 6 décembre, les premiers jours ont été très actifs dans la rue, et petit à petit l'activisme s'est aussi organisé à côté. Beaucoup de gens qui n'étaient pas politisés ont commencé à faire des assemblées de quartier. À Thessalonique, par exemple, je faisais partie d'une radio militante issue des occupations de l'université, et on était 15-20 aux réunions. Après décembre 2008, on était 80. Beaucoup de jeunes ont rejoint le mouvement à ce moment.
We have another bad fact that a lady that was cleaning in hospitals, I think, I don't remember. And she was very active in the syndicalism, and she was an immigrant. She was attacked from her boss.
En janvier 2008, il y a eu un autre drame. Une immigrée employée de ménage dans un hôpital, qui était très active dans son syndicat, a été attaquée par son patron et elle a failli en mourir. Donc de nombreuses organisations de travailleurs ont aussi émergé après.
I think that it was too much crowded, all the manifestations and all the assemblies, so you didn't feel fear, you didn't feel that you are alone.
Le souvenir que je garde de cette période, c'est qu'il y avait une telle foule dans la rue qu'on n'avait pas peur. On ne se sentait pas seul. C'est quelque chose qu'on a perdu après.
Ρουφιάνος πήγες και γίνες στην αστυνομία. Ήσουν μικρός και είχε ανεργία. Ρουφιάνος πήγες και γίνες στην αστυνομία.
The last 3 years it's getting much worse. Because all the governments and the state they don't stop the police brutality, but these governments especially they promote police brutality. They say, okay, when they, for example, with the last year when they killed Sabanis, then the minister of.
Les 3 dernières années ont été de pire en pire parce que le gouvernement et l'État n'ont rien fait pour empêcher les violences policières. Et ce gouvernement en particulier, il favorise la violence de la police.
You do a good job and they were let free and they still carrying a gun. They didn't have any.
Par exemple, l'année dernière, quand les flics ont tué Nikos Sabanis, un autre jeune Rome, le ministre de l'Intérieur est allé voir les flics meurtriers pour leur dire « Ok, ne vous inquiétez pas, on est là, vous faites du bon travail ». Et maintenant, ils sont libres et continuent à porter une arme. Même s'ils sont poursuivis pour meurtre, ils sont toujours policiers et toujours avec une arme. Je pense que dans le passé, le gouvernement n'aurait pas cautionné et aurait plutôt essayé de dire que c'était un accident, une exception, que ce n'était pas révélateur de la police en général, etc. Mais là, on franchit encore un cap lorsqu'ils disent, après ça, que la police travaille très bien. Peut-être que dans un sens, ils sont juste plus sincères aujourd'hui.
Canu Info du mercredi.
Et donc on voulait s'excuser, on a oublié une des brèves, et donc bah voilà, c'est le moment du retour sur les brèves. On a appris lundi que le célèbre interprète de Alice Saglis, le restaurant Tu veux mon zizi, Fruit de la passion, et qu'est-ce que j'ai oublié, Le tombeur, donc le musicien Francky Vincent, a été élu chevalier des arts et des lettres. Donc c'est un des quatre ordres ministériels qui est censé récompenser les personnes qui participent à le rayonnement de la France, tant nationale qu'à l'international. Et donc il a été élu chevalier des arts et des lettres, qui sera ce qui prendra effet cet été. Voilà.
Bravo Francky, vas-y, c'est bon.
Oh. Et bien, après cette petite incartade de brève, nous allons nous écouter Les Berrues avec Ainsi squattent-ils. Et on écoute ça un peu par rapport à ce qui se passe, par rapport à la loi logement et loi anti-squat.
Ainsi squattent-ils sans droit.
faux.
Eh ben vas-y, c'est
et
à toi.
Donc, alors d'abord, je tenais à m'excuser auprès des petits camarades de Mayday à qui j'avais promis de faire l'accent allemand, mais je suis trop nul en accent, donc je vais pas le faire. Importante opération de police en Allemagne contre un réseau de militants d'extrême droite. Au moins 25 personnes ont été attaquées. Ils appartiendraient à un groupe, à une mouvance plutôt appelée le Reichsbürger.
Alors ils n'ont pas été attaqués, mais arrêtés.
Parce qu'ils appartiennent. Enfin, donc c'est des gens qui appartiendraient à une mouvance, on va dire, qui s'appellerait le Reichsbürger. Pareil, vous m'excusez pour mon accent allemand, c'est pour ça que je ne fais pas d'accent. Donc apparemment, ça peut se traduire par mouvement des citoyens du Reich. Ce serait un groupe un peu complotiste, un peu bizarre, qui agrège un peu plein de théories cheloues. Si on en croit les différents trucs que j'ai pu lire, le cœur de leur comment dire, de leur idéologie, on va dire, c'est de dire que la chute de la République de Weimar. Donc la République de Weimar, c'est celle qui commence dans les années 20 et qui s'effondre avec le début du Troisième Reich, n'aurait pas eu lieu puisque le Troisième Reich n'a pas officiellement dissous la République de Weimar et les Alliés ne l'ont pas non plus fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc selon eux, la République de Weimar existe toujours. Ils ne reconnaissent donc pas l'État fédéral allemand. Et notamment, ça passe par des trucs un peu idiots comme refuser de payer ses impôts ou...
Pratique comme revendication.
Ouais, pratique. Ah, je ne reconnais pas l'État, donc je ne paye pas des impôts. Non, je ne suis pas un fraudeur, c'est que je ne vous reconnais pas. Mais aussi des trucs encore plus cons comme se faire des fausses plaques d'immatriculation, juste se les faire soi-même, quoi. S'auto-attribuer une plaque d'immatriculation parce qu'on reconnaît pas l'État. Bon, voilà.
Pas les couteaux les plus affûtés du tiroir.
Ça a pas l'air. Franchement, j'ai commencé. Donc, en plus, il y avait QAnon qui se rajoutait dedans. Enfin, ils ont l'air de faire la collection de toutes les théories complotistes cheloues. Je suppose qu'ils croient aux extraterrestres, ils croient à tout ce que vous pouvez imaginer comme théorie complotiste. Ils avaient l'air d'y croire. Alors, j'imagine aussi que c'est parce que, comme c'est une mouvance, ils croient pas tous à tout, ils sont pas tous d'accord, mais le truc sur lequel ils ont l'air d'être tous d'accord, c'est cette histoire de la République de Weimar, ça c'est jamais fini, et donc il n'y a pas de raison de reconnaître la République fédérale allemande. Donc voilà, donc bon, là ça a l'air d'être une bande de joyeux guignols, mais apparemment, selon les services secrets allemands, une partie d'entre eux, quand même, depuis quelques années, commençait à se radicaliser. C'est dans ce cadre qu'une cinquantaine de personnes étaient visées par une enquête. Ils ont été arrêtés alors qu'ils planifiaient un coup d'État, quand même, rien que ça.
Je sais pas. Vu comme ils ont l'air dégourdis, on peut planifier un coup d'État, c'est pas pour autant qu'on va le réussir, quand même.
Oui, alors, ils avaient l'air d'avoir planifié un coup d'État et d'être un peu avancés sur le chemin. C'est-à-dire que il y avait des armes, il y avait des plans pour attaquer le
Bundestag.
Merci, le Parlement allemand. Et il y avait des listes de personnalités publiques à essayer d'enlever. En tout cas, ils préparaient des enlèvements. Alors, je ne sais pas à quel point ils étaient avancés, ces préparations, mais voilà.
Mais est-ce que dans leur plan, c'était écrit « à essayer d'enlever »
Oui, exactement. « À essayer d'enlever », ouais. Car ils représentent sûrement l'État profond. Ce qui semble avoir déclenché toute cette opération, c'est que ils avaient essayé de contacter les services secrets russes. Et là, quand même, ça a commencé à saouler un peu les services secrets allemands. Alors, au stade où on en est, on peut pas dire ce que Moscou a répondu. En tout cas, Moscou, officiellement, là, en fin d'après-midi, a dit « on n'a rien à voir avec ces guignols, ça va, on a déjà nos propres guignols, laissez-nous tranquilles ». Alors, là où c'est encore fou, ça devient encore plus n'importe quoi. Donc d'habitude, on a l'habitude que ce soit plutôt des skinheads pas fut-fut, mêlés à d'anciens militaires à la retraite qui gèrent ce genre de trucs. Alors, cette fois-ci, on retrouve bien les anciens militaires à la retraite. Un des personnes désignées comme le chef, Rüdiger von P., 69 ans, est un ancien parachutiste, expulsé de l'armée parce qu'il avait déjà essayé de faire des conneries, mais enfin bon. Voilà. Et là où ça devient un peu plus original, c'est que le deuxième, celui qui est vraiment considéré comme le cerveau de l'affaire, c'est un noble fin de race en la personne d'Henri XIII, prince de Reuss, un rejeton de 71 ans d'une famille de la noblesse de Thuringe. Alors le type était déjà connu pour être proche de l'extrême droite, notamment parce qu'il avait des positions, enfin il est royaliste et antisémite, donc voilà, un type qui a l'air tout à fait sympathique.
Recommandable.
Voilà, recommandable. Et donc voilà, toutes ces personnes ont été arrêtées aujourd'hui.
Je
Écoutez.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à l'exploiter.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Et alors, c'est pas souvent que dans cette chronique Fausse Sache-Sache, on peut avoir une rubrique Bonne Nouvelle, mais on a aujourd'hui une rubrique Bonne Nouvelle composée de deux bonnes nouvelles.
Oh.
C'est pas mal.
Et donc il y a aussi une troisième mauvaise nouvelle, c'est ça?
Oui.
Ah, quand même.
Alors,
tu peux commencer par la
non,
bonne
parce
nouvelle.
Que sur... Ah oui, je vais commencer par les bonnes.
Puis mauvaise nouvelle, puis re-bonne nouvelle.
Non, ça va pas du tout dans mon enchaînement.
Okay, bon,
arrête de perturber mon ordre. Alors, pour les bonnes nouvelles, alors un premier passage réussi de haute volée a été fait entre le Maroc et l'Espagne, puisqu'un avion au départ de Casablanca à destination d'Istanbul décolle dans la nuit de mardi à mercredi, donc c'est-à-dire cette nuit. Et alors que la fête doit régner dans l'avion après la victoire du Maroc sur l'Espagne, le vol de Pegasus Airlines est obligé de faire un atterrissage d'urgence à 14h30 car une femme à bord a perdu les os et est sur le point d'accoucher. L'avion atterrit donc à l'aéroport d'El Prat de Barcelone. 50 pompiers et policiers sont venus chercher la femme sur le point d'accoucher qu'un groupe de 27 personnes a quitté l'avion et s'est enfui sur le tarmac. Sur les 27, 5 ont été arrêtés et reconduits à bord de l'avion. 8 autres sont expulsés vers le Maroc. Enfin, seront expulsés vers le Maroc. Et 14 se sont évaporés dans la nature. Alors, l'article ne dit pas exactement pourquoi il y a un traitement différencié entre les 5 personnes arrêtées et reconduites à bord de l'avion et les 8 autres qui seront expulsés vers le Maroc. Est-ce que c'est parce qu'il y en a 5 qui ont dit non, mais en fait, on s'est trompé, on pensait qu'on pouvait fumer une clope, on vient rentrer. Et les 8 autres ont dit non, mais si nous, on veut déposer. Une demande d'asile en Espagne et du coup l'article présage qu'ils vont être expulsés vers le Maroc, mais on ne sait pas. Bref, en tout cas, il y en a sur les 27, dans tous les cas, il y en a 14 qui se sont évaporés dans la nature. Au passage, la femme enceinte qui, après examen, les médecins ont décrété qu'elle avait simulé donc cette perte des os et qu'elle n'était pas du tout sur le point d'accoucher. Elle sera poursuivie pour trouble à l'ordre public. Donc, c'est-à-dire qu'en France, comme en Espagne, hein, cette espèce de trouble à l'ordre public, c'est un peu de fourre-tout législatif, parce qu'effectivement, il pourrait pas y avoir de loi disant interdiction de simulation de perte des os dans un avion. Bon, en tout cas, le scénario était bien ficelé et il y a un peu moins d'un an, on en avait parlé ici, une action similaire s'était déroulée. Cette fois-ci, le faux malade simulait un malaise dû à son diabète, permettant à un petit groupe de se faire la belle et la moitié avait été arrêtée quand l'autre moitié avait pu vivre sa vie tranquille.
Ça.
Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais cette technique est rendue possible car pour voyager entre le Maroc et la Turquie, il n'y a pas besoin de visa. Donc c'est pour ça que c'est facile, assez simple pour les gens. Enfin, c'est simple, ça demande quand même de débourser des thunes pour un avion, mais voilà, ça demande
et de formalité. D'être enceinte et de simuler une...
Bah c'est ça, c'est-à-dire que ça s'est dépassé il y a un peu moins d'un an, ça n'a pas l'air de se dérouler non plus tous les 4 matins, donc je pense que ça nécessite un peu d'organisation, un peu de moyens et bref. Mais jeudi 1er décembre, autre passage qui a la classe, un exilé a réussi à franchir la frontière ultra sécurisée de Melilla à l'aide d'un parapente. À la tombée de la nuit, deux personnes à bord d'une voiture circulaient sur une route qui longe la frontière et qui ont aperçu un parapente franchir le grillage ébarbelé. Alors, c'est-à-dire qu'on voit la vidéo sur internet, c'est-à-dire qu'il fallait pas qu'il se baisse d'un mètre parce que sinon il se prenait les barbelés. Mais non, il a réussi réussi à passer. Il s'est posé dans la forêt un peu boisée juste à côté de la route, juste après la frontière, comme on peut le voir sur la vidéo. Fort heureusement, et malgré que les salopards à bord de leur véhicule ont décidé de prévenir la Guardia Civile en ayant vu ça, la personne n'a pas été retrouvée.
Ça sache.
Et on reste dans la zone avec cette fois-ci une moins bonne nouvelle, et c'est une info qui nous avait échappé la semaine dernière. On avait pas mal parlé de du massacre là, du 24 juin à la frontière de Melilla, où plein de gens s'étaient retrouvés encerclés par les flics, étaient morts, gazés, piétinés, bref, après une tentative de passage massif. Donc après ce massacre, il y a eu 14 personnes qui sont comparues en première instance devant le tribunal de Nador, et là c'est l'AMDH de Nador, qui est l'association marocaine des droits humains, qui informe que la cour d'appel de Maroc a plus que triplé les peines prononcées en première instance, et des peines de 8 mois à 3 ans de prison ont été prononcées.
Ça sache.
Alors, Bakour, Kurdistan de Turquie. Le 1er décembre, la prisonnière politique Shadiye Manap sort de prison. Shadiye Manap avait été arrêté en 1992, il y a 30 ans, et condamné à la prison à vie. Elle est donc sortie jeudi dernier. Elle n'a pas eu le temps de respirer un peu d'air extérieur, elle n'a pas eu le temps d'entendre le chant des oiseaux. Dès sa sortie, Shadiye Manap a été placée en garde à vue. Au bout de 4 jours de garde à vue, elle a été réincarcérée dans l'attente d'un jugement pour appartenance à une organisation terroriste. Alors, pendant ses 30 ans de prison, elle a été torturée à de nombreuses reprises, mais a aussi participé à de nombreuses révoltes de prisonnières. Shadiye Manap, activiste de la cause kurde, est rentrée en prison à 24 ans. Elle en a aujourd'hui 54 et elle risque d'y rester pour toujours. Rojava, Kurdistan de Syrie. La Turquie continue de bombarder notamment les régions de Zirgan, Sheba et surtout la ville de Kobané, symbole de la résistance contre Daesh. Cette fois, c'est plutôt des silos à grains et des terrains agricoles qui ont été touchés, même si des villages de réfugiés, suite à l'invasion d'Afrine par la Turquie, ont aussi été bombardés, ainsi que la route M5. Il semblerait que la technique de la Turquie serait d'affamer la population et les combattantes et combattantes avant de tenter une invasion terrestre. Rojava toujours, il y a 2 jours, un député catalan, accompagné d'autres parlementaires catalans, se sont rendus au Rojava pour exprimer leur solidarité et dénoncer les attaques de la Turquie sur le Rojava, qui ont commencé le 19 novembre et qui sont totalement contraires au droit international.
Et donc on finit ce Canu Info, un peu en avance cette fois-ci. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Est-ce qu'on a un petit agenda ou pas?
Ah bah oui, on a un petit agenda. On a même un gros agenda parce que... comment ils s'appellent déjà les... Mince, j'ai mangé leur nom. Les goûters solidaires, les gens à l'école, les parents d'élèves. Les parents d'élèves... machin, enfin vous voyez, j'ai oublié leur nom, mais vous voyez de qui ils parlent.
Les délégués.
Non, les collectifs de parents d'élèves, là. Ils se sont lancés dans une contre-fête des Lumières. Donc il y a tout un tas d'événements ces prochains jours. Donc,
alors si tu pouvais continuer à parler dans ton micro.
Pardon, il faut que je regarde mon téléphone portable derrière mon micro. Donc, je vous passe les événements qui ont déjà commencé. Mais demain, il y a une vente de gâteaux solidaire en soutien aux enfants sans toit à l'école Giono de 17h à 18h. De 17h30 à 18h30, il y a à l'école Berthelot un goûter, une vente de vin et de jus de pomme chaud en soutien aux familles sans toit. Devant l'hôtel de ville, demain à 18h, il y a un rassemblement, l'hôtel de ville de Villeurbanne, pardon, il y a un rassemblement de 18h à 19h30, pareil, en soutien aux familles sans toit. Vendredi, à l'école Michel Servet, il y aura de 17h à 18h un goûter solidaire. À l'école... Ah, alors là, par contre, c'est pas précisé, c'est Fontaine-sur-Saône. J'imagine qu'il n'y a qu'une seule école primaire. Sinon, ils auraient peut-être mieux précisé. Mais en tout cas, aussi, à 17h, de 17h à 18h, vendredi 9 décembre, il y aura une vente de plats traditionnels en soutien aux enfants sans toit. Et enfin, toujours vendredi, le squat Le Casse-Dalle organise, à partir de 19h, une cantine végane, puis la projection d'un film non précisé.
Si, si, le film, ça va être Pride... qui est un très bon film sur les homosexuels qui soutiennent les mineurs anglais en grève sous Thatcher.
Et sinon, samedi, comme d'habitude, il y aura l'infoshop à la lutine.
Et mardi, à l'amicale, soirée de soutien à... Ah, vas-y. Aux soirées de soutien contre le Lyon-Turin.
Oh là, c'est revenu, ça, ça faisait longtemps.
C'est revenu, ouais. Si on ne sait pas si le train va revenir, oui, parce qu'on s'était dit avec les, enfin, avec les écolos à Lyon, peut-être que ça freinerait le projet, mais pas sûr.
Bah, ok, et ben voilà.
Et bien merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve la semaine prochaine.
Allez, bonne soirée.
www.radiocanine.org.